Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 8h.
C'est eux aussi qui nous font vivre aussi l'été, quoi. J'allais dire un client, c'est un client, hein, qu'il soit de Paris ou qu'il soit du Croisic ou de Nantes, nous c'est pas un problème.
Des milliers de Français ont décidé de se confiner loin de chez eux, à la Baule. Certains commerçants se réjouissent déjà, la population devrait au moins tripler d'ici demain soir.
Faut-il développer un passeport sanitaire pour rouvrir le pays? Les discussions sont en cours, en France, mais aussi en Europe, c'est le dossier de ce journal.
Les catholiques peuvent aujourd'hui célébrer Pâques, mais depuis un an, des centaines de messes ont été annulées et les finances de l'église sont dans le rouge.
Et puis, un incroyable défilé qui a eu lieu hier au Caire. 22 momies de pharaons ont traversé la ville pour rejoindre le musée de la civilisation égyptienne.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Fuir pour ne pas rester enfermé pendant 4 semaines ou plus, selon certains. Voilà ce que se sont dit des milliers de Français ces derniers jours.
Pour vivre un confinement un peu plus agréable, certains citadins ont pris la route de la Baule. Et sur place, si quelques-uns craignent que le virus n'arrive dans leur valise, eh bien les commerçants, eux, sont ravis. Damien Mestre.
Les touristes arrivent, prendre du temps, aller à la plage, dans leur résidence secondaire.
Il y a des signes qui ne trompent pas, les voitures chargées de valises, les volets des résidences qui s'ouvrent à nouveau, et puis les files d'attente dans les magasins, confirme Clémentine, vendeuse chez un traiteur italien.
Autour du marché, à la Baule, ouais, c'est vrai que ça bouge un peu. Vu que les restos sont fermés, bah, ils prennent à manger, à emporter en fait.
À quelques kilomètres de là, son père vend des pizzas. Le restaurant vient tout juste de rouvrir et lui aussi, il voit plutôt d'un bon œil cette affluence.
C'est eux aussi qui nous font vivre aussi l'été. Quoi. J'allais dire un client, c'est un client, hein, qu'il soit de Paris ou qu'il soit du Croisic ou de Nantes, nous c'est pas un problème.
Il faut dire qu'ici, on a l'habitude, confinement après confinement, de voir du monde arriver. Alors certains craignent une vague de contamination venue de l'extérieur, mais le maire Franck Louvrier se veut lui rassurant.
À chaque fois, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de rebond épidémique au lendemain de ces vacances et donc de cet accroissement de la population.
Sa police municipale a tout de même obtenu le renfort d'une compagnie de CRS pour faire respecter les règles sanitaires durant ce week-end.
Damien Mestre, la France entière est donc reconfiné depuis hier soir, Marguerite. Les autorités espèrent ainsi freiner les contaminations.
Et soulager les hôpitaux, car plus de 5200 personnes sont en ce moment en réanimation. Dans le même temps, la vaccination se poursuit avec le renfort de l'armée. 7 hôpitaux militaires seront mobilisés dès mardi, en plus des vaccinodromes qui commencent à se déployer.
Bonjour Stéphane Troussel.
Bonjour.
Vous êtes le président socialiste de la Seine-Saint-Denis. Dans votre département, c'est le Stade de France qui sera transformé en vaccinodrome dès mardi. Vous prévoyez combien d'injections ?
Alors, il y aura surtout environ 10 000 doses par semaine. Donc, dans cette semaine qui va commencer le mardi, les vaccinations seront organisées jusqu'au samedi inclus. Donc, vous comptez, ça fait à peu près 2 000 doses par jour.
Et vous dites, Stéphane Troussel, qu'il faut aussi et surtout vacciner en priorité les enseignants et les personnels scolaires.
En tout cas, c'est le sens d'une proposition qu'avec Mathieu Hanotin, le maire de Saint-Denis, nous faisons ce matin dans une lettre ouverte au Premier ministre. Nous lui proposons d'aller encore plus loin et de déployer une stratégie de vaccination spécifique pour les professionnels en première ligne. Les cibles actuelles éligibles à la vaccination, elles ne nous paraissent pas suffisamment adaptées à la jeunesse et au métier de la Seine-Saint-Denis. Et donc, nous disons au Premier ministre que les dotations de doses pour le Stade de France pour le mois d'avril, elles peuvent permettre d'accueillir les professionnels de la petite enfance, des établissements scolaires qui souhaitent se faire vacciner en Seine-Saint-Denis. Et que justement, si nous le faisons maintenant, au cours de ces 3 ou 4 semaines de fermeture de crèches, d'écoles, collèges, lycées, profitons-en pour vacciner l'ensemble des personnels de ces établissements, justement pour nous donner toutes les chances de les rouvrir à partir du 26 avril.
Et on entend votre appel lancé donc ce matin sur Europe 1 ainsi que dans les colonnes du journal du dimanche. Merci Stéphane Troussel.
Merci.
À ce jour, plus de 9 200 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Cette campagne est évidemment cruciale pour la réouverture progressive du pays.
Et notamment la réouverture des cafés et des restaurants. À la mi-mai, les autorités envisagent de mettre en place un passeport sanitaire. C'est le dossier de ce journal.
On parle d'un QR code qu'il faudra flasher sur votre téléphone. À Nice, c'est un dispositif qui est déjà dans toutes les têtes, Frédéric Michel.
Un passeport sanitaire, oui, mais tout de suite, c'est la position du maire de Nice, Christian Estrosi.
J'ai entendu parler du mois de juin, du mois de juillet. Non, c'est maintenant, sans attendre, qu'il faut le faire. C'est une garantie pour ceux qui viennent d'ailleurs, qu'ils ne viennent pas ramener le virus et qu'on puisse les accueillir dans les meilleures conditions possibles, ce qui peut permettre de libérer les activités, donc relancer l'économie.
Ce passeport, les commerçants sont prêts à le demander à l'entrée de leur magasin. Philippe Desjardins préside la Fédération du commerce niçois et de l'artisanat.
Pour aller dans les restaurants, aller au cinéma, au théâtre, reprendre un peu la vie, s'il faut passer par un passeport, pourquoi pas? Après, ceux qui décident de ne pas se vacciner, ils sortiront moins ou ils sortiront pas.
Saoussène est propriétaire d'un bar PMU. Le passeport sanitaire, elle n'y croit pas et pourtant elle aimerait pouvoir accueillir normalement ses clients.
Ma plus grosse crainte, c'est par rapport au vaccin lui-même. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas de recul fiable, on ne peut pas imposer le vaccin à tout le monde, on ne peut pas imposer aux gens un passeport sanitaire.
Pour les cafés et restaurants, l'exécutif s'orienterait vers l'option d'un QR code à flasher et les discussions avec nos partenaires européens sont en cours pour la mise en place d'un passeport sanitaire. Nice, Frédéric Michel, Europe 1.
Et en Europe, justement, Frédéric le disait, les discussions sont donc en cours. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Isabelle, est-ce que les choses avancent ?
Oui, à un rythme assez inhabituel au niveau européen. Les 27 pays de l'Union espèrent se mettre d'accord d'ici la mi-avril. Ça permettra de lancer les discussions avec le Parlement européen. Les eurodéputés ont accepté d'examiner le certificat sanitaire en urgence. Ils se tiennent prêts à le voter début juin. Donc à ce stade, l'hypothèse d'une mise en place cet été semble toujours tenir.
Isabelle, le commissaire Thierry Breton évoque le format d'un QR code. Est-ce que l'on sait ce qu'il y aura à l'intérieur ?
Déjà, le QR code renfermera une signature électronique. Elle devra être reconnue partout en Europe. Elle permet de vérifier l'authenticité des données du certificat. Que contiendra-t-il ? C'est encore en débat, pas juste votre statut vaccinal, mais aussi vos tests et éventuellement la date à laquelle vous avez fait la maladie. Mais la principale difficulté à ce stade, c'est que médicalement, on manque encore de certitude, ce qu'admet Didier Reynders, le commissaire européen qui gère le dossier.
On n'a pas aujourd'hui toute la connaissance sur ce virus, sur les éléments qui entourent le vaccin comme le virus. Et donc, on va progresser en précisant dans des actes d'exécution progressivement, pour donner ne fût-ce qu'un seul exemple, quand on a été rétabli de la maladie, on dit qu'on peut avoir des anticorps pendant maximum 180 jours. Peut-être que ce sera moins si des évidences apparaissent dans les prochaines semaines.
En tout cas, ces incertitudes créent un peu de tension entre les pays touristiques qui veulent le certificat à tout prix et les autres qui appellent à la prudence.
Merci pour ces précisions, Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Voilà l'information sur Europe 1 prime avec justement ce QR code qui pourrait être l'incarnation de ce passeport vaccinal. Vous restez avec nous 8h07. Dans un instant, on verra comment l'épidémie a vidé littéralement les caisses de l'église. À tout de suite.
Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Suite du journal de Marguerite Lefebvre, alors que les catholiques de France célèbrent Pâques ce dimanche, on s'intéresse ce matin aux finances de l'Église.
Oui, car depuis un an, des milliers de cérémonies ont été annulées. Résultat, eh bien, le denier du culte a fondu. Reportage à Lyon de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
C'est une évidence, dans les 90 paroisses du diocèse de Lyon, les fidèles ont été beaucoup moins nombreux que d'habitude. La faute aux restrictions sanitaires et à toutes ces cérémonies annulées, conséquence directe, les ressources financières des paroisses sont en nette baisse, explique Véronique Bousquerolles, économe du diocèse.
Lorsque un mariage se tient à 6 personnes au lieu de 200, vous imaginez bien que le montant de la quête s'en trouve réduit au moins à proportion. On a des paroisses avec des diminutions des ressources de l'ordre de moins 35% par rapport aux années précédentes.
Mais la bonne nouvelle, c'est que les fidèles se sont beaucoup plus servis cette année du denier de l'Église pour lui venir en aide.
Une augmentation du nombre de donateurs de 5%. En termes de valeur, on est dans une augmentation de 8 à 10%.
Un sursaut observé aussi en matière de foi. Bien sûr, il y a moins de monde dans les églises, mais la foi des fidèles s'en trouve paradoxalement régénérée, estime le père Yves Guerpillon, curé de la paroisse de Lyon 8e.
Disons qu'il y a moins en quantité et plus en qualité. Les gens se posent des questions à l'occasion de la pandémie. La peur, ça peut aussi parfois entraîner des remises en question. On a des demandes de baptême. Cette année, on va avoir 5 personnes qui seront baptisées, des adultes entre 30 et 45 ans. Donc il y a des chemins qui s'ouvrent.
Un constat que le père Guerpillon fera encore probablement tout à l'heure lors de la messe de Pâques. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et c'est justement le patron du diocèse de Lyon que je reçois juste après ce journal. Monseigneur Olivier de Germay est notre invité à 8h15. Il a succédé au cardinal Barbarin.
L'affaire avait ému tout le pays. C'était en 2011 et depuis 10 ans, eh bien, cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès passionne la France. Ce père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants est toujours introuvable.
Et dans l'ombre des gendarmes, de nombreux amateurs tentent eux aussi de mener l'enquête, à l'image de Catherine, rencontrée par notre correspondant Charles Guyard à Nantes.
Chez nous, ici, on a ressorti
sorti le plan de cadastre. Puis du coup, j'ai pensé, les Ligonnèses.
Depuis 10 ans, le quotidien de Catherine est ainsi. Tout ce qu'elle fait la ramène à l'affaire Dupont de Ligonnès.
Je peux pas aller au Casto sans y penser. Ou quand je passe dans le coin, des fois, je fais un petit crochet. Je passe devant la maison.
Mais la sexagénaire ne se contente pas seulement de faire un petit détour. Elle enquête à ses heures perdues, prend des photos, dessine des plans, se déplace.
Ça a borné ici son téléphone. J'ai refait le même trajet. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il est venu faire là? En trouvant le stand de tir, je suis retournée récemment.
Des recherches qu'elle compile sur son ordinateur dans un dossier intitulé « Affaires criminelles » avec plusieurs onglets.
Donc là, j'ai alentour du 55, ça veut dire plein de photos alentour de la maison.
Et qu'elle partage aussi sur des forums spécialisés ou entre passionnés. On parle donc du 55 pour désigner la maison quand le fugitif est simplement appelé Xavier. Et d'ailleurs, si elle le croisait, Catherine sait déjà ce qu'elle ferait.
J'appelle pas forcément le 17 tout de suite. Hein. Je fais tout pour le suivre. S'il a une nouvelle maison à Nantes, bah, je saurai où c'est.
Et en attendant, elle continue de remplir ses dossiers. On a même créé un nouveau depuis, affaire Troadec, du nom de cette famille décimée par un oncle, lequel sera lui jugé aux assises cet été. Le lieu du crime, il n'est qu'à quelques kilomètres de chez Catherine.
Mais t'es arrivé d'aller là-bas ?
Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Il est 8h11, on passe au sport et le foot sensation en Ligue 1 hier soir. Lille a fait tomber le PSG. Les Lillois sont imposés 1-0.
Imposés au Parc des Princes, hein, c'est une première depuis 25 ans. Le LOSC prend donc la tête du championnat et une bonne option sur la fin de saison. Au PSG, en revanche, eh bien, l'inquiétude est grande. Julien Froment.
À l'image de Neymar, expulsé en toute fin de match car incapable de gérer ses émotions, le Paris Saint-Germain a peut-être dit adieu à ses dernières chances de titre avec cette 8e défaite de la saison. Face à des Lillois, loin d'être géniaux, mais solides en défense, efficaces en attaque et surtout cohérents collectivement, le PSG a manqué de tout pour espérer l'emporter. Il n'a désormais plus son destin entre ses mains en Ligue 1, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
Eh bien, je suis déçu du résultat et logiquement de la performance de l'équipe. Mais surtout et aussi d'avoir perdu 3 points précieux. Pour autant, je ne suis pas inquiet, mais on devra batailler jusqu'au bout pour tenter de gagner la compétition.
L'entraîneur du Paris Saint-Germain a désormais 4 jours devant lui pour faire oublier cette énième contre-performance, remobiliser les hommes, trouver les bons mots et remettre à flot un bateau parisien qui semble à la dérive pour défier le Bayern Munich, référence en Europe, en quart de finale aller de la Ligue des Champions.
Julien Froment. Et puis dans les autres rencontres hier, Monaco a écrasé Metz 4-0 et Lens et Lyon ont fait match nul 1-1.
Direction l'Égypte pour terminer ce journal.
Oui, avec un défilé inédit au Caire. 22 pharaons en pleine rue sur des chars. Ces momies ont en fait été transférés entre 2 musées de la capitale égyptienne, transfert sous très haute sécurité. Laura Taouchanoff.
La plupart de ces momies n'avaient pas été déplacées de ce musée depuis plus d'un siècle. Alors, c'est en musique, sur cet orchestre, qu'elles ont été tirées de leur sommeil pour rejoindre leur prochain lieu de repos. Pendant 40 minutes, 18 rois et 4 reines sont transportés sur d'énormes chars à la décoration pharaonique, spécialement conçus pour absorber les chocs. L'un des plus notables, Ramsès II, 67 ans au pouvoir, connu notamment pour avoir signé le premier traité de paix d'Égypte. Ils sont escortés par des femmes en tuniques traditionnelles, des hommes aussi sur des répliques de chars de guerre tirés par des chevaux. Un spectacle qui marque la fin d'un long travail de conservation, témoigne Claude Tronecker. Il est égyptologue à l'université de Strasbourg.
C'est émouvant pour moi de penser que Ramsès traverse le Caire par des rues que moi je connais, que j'ai pratiquées. Et si ça peut inciter les gens à venir en Égypte, c'est une très très bonne chose.
Et c'est l'objectif principal de l'Égypte, attirer à nouveau les touristes qui ont déserté le pays à la suite de la révolution en 2011.
Le récit de Laura Taouchanoff pour Europe 1.
Merci Marguerite, à tout à l'heure pour le dernier journal de cette matinale à 9h.